trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nouran Charret est avec nous, directeur des investissements de Mansartis. Bonsoir Nouran.
Bonsoir Grégoire.
Hervé Gouletker nous accompagne, senior economic advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Grégoire.
Et David Belloc est également à nos côtés, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David.
Bonsoir Grégoire.
David, commentaire sur les 50 premiers jours de Donald Trump, un Trump 2.0 qui semble, comment dire, peut-être un peu plus déterminé à accepter une forme de douleur à la fois pour les marchés financiers et peut-être pour l'économie américaine également. Courant février, il avait eu cette petite phrase, est-ce qu'il y aura de la douleur? Oui, peut-être un peu ou pas, mais en tout cas, ça vaudra le coup. Il y a eu cette petite phrase il y a quelques jours, l'idée qu'il y aurait little disturbance, but we're okay with that. Nous sommes d'accord avec quelques perturbations. Et puis, dans l'interview diffusée sur Fox News dimanche soir, où Donald Trump s'exprimait, il admet que l'économie américaine affronte désormais une période de transition qui semble nécessaire pour atteindre le golden age of America, l'âge d'or des États-Unis. Il prépare le terrain à quelque chose là, Donald Trump?
Alors c'est très difficile d'être dans la tête de Donald Trump. Quel est le seuil de douleur pour lui, pour son administration? C'est vrai qu'on a une très nette détérioration de tout ce qui est soft data aux États-Unis, les indices de confiance. On l'a vu sur le dernier ISM manufacturier, notamment la composante nouvelle commande. Normalement, mais c'est à confirmer encore, puisque pour l'instant, c'est vrai que les derniers chiffres qu'on appelle hard data, notamment d'emploi, restent très bons. Donc le point de départ reste très bon, ce qui est également dans la tête de la Fed, hein, d'où le discours de Powell par rapport au fait que l'économie restait solide. Donc à quel moment on va voir basculer cette faiblesse des indices soft data des vrais chiffres décevants en termes de consommation, de production industrielle. Ça, c'est les prochains mois qui nous le diront. Et en parallèle, c'est vrai qu'on a un marché action, particulièrement un marché action américain, qui se rapproche doucement mais sûrement des moins 20% de baisse du pic au creux, qui correspond à un bear market, hein, et qui en général est synonyme de récession. Donc, pour l'instant, Donald Trump y accorde alors, c'est un peu d'importance, mais ça va très très
vite. Il y a moins 10 là pour l'instant. Le S&P est à peine à 10% de baisse par rapport au sommet. Le Nasdaq est un peu plus vers les moins 15 que le S&P.
Voilà, donc, mais avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'effet richesse, puisqu'on sait que la consommation a été très résiliente aux États-Unis du fait de l'effet richesse. On a aussi un Bitcoin en forte baisse.
Bien sûr.
Et donc ça peut aussi jouer quelque part sur l'économie réelle, puisque c'est ce qui semble principalement intéresser Donald Trump. Pour l'instant, c'est vrai que c'est essentiellement des flux techniques, hein, quand même. Il y avait un surpositionnement sur les actifs américains, particulièrement sur la technologie et particulièrement sur les assets magnifiques, avec des niveaux de valo qui étaient quand même très élevés, relativement à l'historique. Et effectivement, un marché assez complaisant qui ne s'attendait pas à ce que Donald Trump implémente aussi fort, ouais, aussi vite, sa politique tarifaire. De ce point de vue-là, il a quand même clairement surpris.
Encore plus le Doge, plus les coupes fédérales, plus le bruit également apporté par Elon Musk. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sweetener dans sa politique, il n'y a pas beaucoup d'adoucissant ou d'adoucisseur. On a vraiment plutôt le côté, pas le côté pro-business à ce stade.
Tout était une question de séquençage pour l'exercice plutôt difficile d'anticipation fin d'année dernière, à savoir des politiques pro-business, de déréglementation, de baisse d'impôts, face effectivement à avoir réduction des flux migratoires, tarifs douaniers et effectivement réduction de la dépense publique via Doge qui n'était pas forcément complètement dans les tuyaux à l'époque. Mmh. On voit que finalement dans le calendrier, il veut aller très très vite sur la politique tarifaire supérieure à ce que le marché attendait. Et finalement, bon, même s'il a demandé à Elon Musk d'y aller plutôt au scalpel et moins à la tronçonneuse, on voit quand même que cette politique surprend. Ouais. Il a pour l'instant, je crois, 100 milliards de cuts
d'économie. Ouais, alors c'est difficile à savoir. Moi j'ai vu 60, bon, peut-être 100, ok, très ouais, bien.
Voilà, donc on est très très loin du compte, malheureusement, ouais, par rapport à ce qu'il avait annoncé, à savoir 1000 ou 2000 milliards. Il n'y arrivera pas, mais on voit quand même que s'il commence à attaquer dans le dur, là, ça sera franchement récessif. Parce que sur le déficit américain, on a effectivement une grosse partie qui est liée à la sécurité sociale et aux dépenses de santé auxquelles on ne peut pas toucher. Et sinon, c'est un tiers défense. Donc là, je pense qu'ils vont effectivement couper. Sinon, c'est un tiers... lié à des dépenses d'éducation, recherche, et on voit qu'effectivement, là, il coupe assez fort, et ça peut créer du chômage. La grosse question, c'est savoir si ces emplois fédéraux vont être remplacés par des emplois privés. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, quand même, d'un point de vue macro, et conséquences sur l'économie réelle. C'est très difficile de répondre dès maintenant, mais on voit que effectivement, il n'a pas l'air de trop se soucier, pour l'instant, de la réaction de marché.
Nouran, qu'est-ce que vous inspire ces 50 premiers jours de Donald Trump au pouvoir et puis ce que ça peut impliquer pour l'économie et pour les marchés financiers? La lune de miel semble bel et bien terminée là à ce stade. Elle aura duré de l'élection en novembre à l'installation effective de Donald Trump le 20 janvier dernier à la Maison-Blanche.
Oui, alors c'est vrai que bon, il y a quand même plusieurs éléments et c'est compliqué de prendre juste, enfin si on analyse un peu les marchés, c'est compliqué de voir ou d'analyser la baisse des actions américaines sans analyser en parallèle la hausse des actions européennes, parce qu'on a clairement effectivement un arbitrage qui s'effectue dans des environnements qui avaient débuté en début d'année très positifs, très roses, peut-être un peu trop optimistes aux États-Unis, alors qu'en fait en Europe on était vraiment dans un environnement un petit peu plutôt compliqué et très pessimiste. Donc si on analyse, je pense qu'en fait, alors bon, il y a Donald Trump avec toutes les incertitudes que ça implique, mais quelque part le mouvement des marchés reste quand même globalement, je trouve, rationnel, avec des éléments d'ordre fondamentaux politique et monétaire. Et quand on regarde en fait cette surperformance des marchés européens depuis l'élection de Trump, hein, elle n'est pas récente, elle n'est pas survenue, elle s'est accélérée avec effectivement tous les discours autour des plans de relance allemands, mais elle est réelle
c'est
depuis fin novembre.
C'est même depuis que le marché a anticipé la victoire de Trump. Ça a même commencé sans doute un peu avant le 5 novembre. Et à partir de là, le DAX, voilà, si on prend l'indice allemand de référence, fait mieux que le marché américain depuis octobre-novembre.
Tout
maintenant.
À fait. Et quand on analyse ces différents éléments, si on prend les éléments fondamentaux, si on fait un focus un peu sur la surperformance européenne, les éléments fondamentaux sont bien là, c'est-à-dire qu'on a une croissance bénéficiaire en Europe qui est meilleure et qui a été révisée à la hausse, alors que la croissance bénéficiaire a été révisée à la baisse aux États-Unis. On est passé d'une croissance des bénéfices de 14% à 11%, sachant qu'on était dans un environnement de valorisation élevée qui nécessitait des niveaux, en tout cas absolus, très forts de croissance bénéficiaire. Mmh. En Europe, c'était l'inverse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand on regarde, on a un petit peu parlé, les surprises économiques sont positives en Europe et sont quand même négatives aux États-Unis, notamment en raison de la baisse de confiance des agents économiques, que ce soit des ménages ou que ce soit de la part des entreprises. Donc rien que ces facteurs qui sont factuels, hein, je dirais en tout cas fondamentaux, on explique effectivement cette prise de bénéfices sur les actions américaines. Ensuite, vient s'ajouter à ça des éléments d'ordre politique. Donc grosse incertitude autour des politiques de droits de douane, sachant que on avait quand même anticipé qu'il commencerait par cette politique-là aux États-Unis. On commencerait par les politiques douanières et ensuite viendrait effectivement, avec l'aval du Congrès, tout ce qui est politique réglementaire,
des réglementations
et
baisse d'impôts.
Et surtout baisse d'impôts. Ah oui. Mais sur le plan politique, on voit qu'effectivement, bon, il revient, c'est trop irrégulier son discours, on a du mal à voir un petit peu où est-ce qu'il veut en venir, même dans sa politique tarifaire qui paraissait relativement claire au début. Aujourd'hui, on a quand même une amélioration de la stabilité politique en Europe, notamment avec le gouvernement bipartite en Allemagne qui semble effectivement favoriser la fin de l'orthodoxie allemande. Donc ça, c'est un point qui est relativement important parce que quand on regarde, si on a effectivement... Alors c'est vrai que si on a ces plans de relance qui ne sont pas encore validés, bien évidemment, parce qu'on va avoir les votes dans quelques jours sur ces plans d'investissement, on a besoin, bien évidemment, de l'aval des votes des Verts pour effectivement avoir la majorité des deux tiers au Parlement. Les montants avancées sont très aléatoires, donc c'est vrai qu'ils reposent sur quelque chose qui n'est pas encore complètement concret. Mais cela dit, on sent quand même un espèce de sursaut collectif, ou en tout cas une prise de conscience collective en Europe pour effectivement rendre une Europe un peu plus, une croissance un peu plus soutenue, un peu plus autonome et un peu plus soutenable à terme. Et ces éléments-là de relance budgétaire, on l'a vu aux États-Unis avec Joe Biden quand même, qui a mis en place le plan l'ARPA en 2021, et on a bien vu les impacts finalement assez rapides sur ce plan de relance, qui a contribué globalement à 50% de la croissance américaine en 2023. Donc c'est pas négligeable. En Europe, on avait un plan similaire, un post-Covid, on avait le Next Gen, qui était un plan relativement important. Alors effectivement, quand on regarde, il n'a pas été complètement déployé, mais cela dit...
C'est souvent le problème avec les plans de relance en Europe. J'ai remarqué que très souvent, à la fin,
c'est vrai,
manque un peu de projet pour les quelques dizaines de milliards qui restent.
S'ils n'ont pas été complètement déployés, en tout cas, les principaux contributeurs ont été l'Espagne et l'Italie. Oui. Et je ne dis pas que la croissance bénéficiaire des prêts et des subventions. Donc je ne dis pas que la croissance des pays de l'Europe du Sud est soutenue que par ce plan NextGen, mais en tout cas, ça peut faire partie effectivement du dynamisme de croissance. Il y a d'autres facteurs explicatifs, bien évidemment.
Donc vous dites qu'il y a un effet contraste, là. Pour revenir à Trump, il y a Trump, mais il y a aussi l'effet contraste proposé par l'Europe, qui accentue encore un peu, peut-être, la défiance qu'on peut avoir.
Et il y a les politiques monétaires aussi. On voit une Fed un petit peu moins souple que la BCE dans la dynamique de politique monétaire plus accommodante. Et en plus, on a des niveaux de taux d'intérêt en Europe qui rend plus attractifs les actions européennes versus finalement une prime de risque qui est très négative. Donc oui, Donald Trump, effectivement, met beaucoup d'incertitudes et de volatilité au marché, mais face à ça, on a effectivement une amélioration de la visibilité, et peut-être que Donald Trump aura un effet plutôt positif sur l'Europe et qui permettra de booster enfin et d'améliorer la gouvernance européenne vers une Europe plus soudée et plus forte.
Plus optimale. Une version économique plus optimale de l'Europe. On verra, Fed BCE, le match est peut-être en train, les cartes sont peut-être en train d'être un peu redistribuées.
On verra
qui de la Fed ou de la BCE baissera le plus ses taux au cours de cette année 2025. Sur les 50 premiers jours de Trump, Hervé, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie ? Effectivement, c'est quand même comme ça qu'on a envie de poser la question, notamment sur la partie douanière. Les droits de douane servent à tout, c'est pour tout le monde, c'est spécifique, c'est pour les alliés, c'est aussi pour les ennemis, on les mettra bientôt, on les mettra plus tard, on en enlève un peu, on en remet ensuite, enfin bon, voilà.
Ouais, il y a de la psychologie et de la stratégie, et puis il y a du court terme et du moyen terme. La psychologie, c'est ni plus ni moins que la stratégie du fou. Ça nous rappelle Kissinger et Nixon au début des années 70, pendant les négociations de paix avec le Vietnam. Kissinger qui essayait de convaincre les Vietnamiens que Nixon était fou et qu'il fallait qu'ils acceptent tout maintenant, parce que sinon, ça serait pire demain. Mmh. Bon, j'ai l'impression que chez le président Trump, il y a un peu de cela. C'est vrai en économie avec ses droits de douane, c'est vrai en géopolitique avec l'Ukraine.
Retenez-moi où je fais un malheur.
Voilà. C'est cela. Bon, on verra bien où ça nous mène. Et on voit bien que la réaction à l'opposition du Premier ministre de l'Ontario, tu n'as pas compris exactement ce que je voulais faire. Bing. Mais ça, c'est du court terme, de la psychologie. On voit que les Américains, qu'il s'agisse des ménages, des entreprises, des marchés de capitaux, sont très sensibles à ce court terme en disant mais ça ne marche pas comme ça. Et puis il y a le plus stratégique, le plus moyen terme. Moi, j'ai quand même l'impression que Donald Trump est une sorte de passeur entre le moment d'hier et le moment de demain, donc la régulation d'hier, le néolibéralisme, avec l'idée que les opportunités sont partout parce que l'économie de marché s'élargit au monde. Et on voit bien que Moi, j'ai le pressentiment qu'on entre plutôt dans un capitalisme de la finitude, c'est-à-dire que les ressources sont contraintes, on le sait bien, même si Trump a du mal à l'admettre. Et puis, on voit bien que les opportunités, elles se réduisent parce que géopolitiquement, tout est plus compliqué. Et Trump est l'homme du passage, je dirais, entre l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas accorder trop d'importance au court terme. Dans le monde de demain, les États-Unis auront besoin d'alliés, auront besoin de ressources, auront besoin de marchés. Ça ne sera peut-être pas à la taille du monde, mais pour que les Américains réussissent leur précaré, il faut un peu mettre le monde au pas. Donc les alliés au pas d'abord, il faut qu'ils comprennent. Et puis l'enjeu au-delà des alliés, c'est tous les pays qui hésitent entre la Chine et les États-Unis, ce qu'on appelait les non-alignés autrefois. Et la fermeté doit leur faire comprendre que quand Trump fronce le sourcil, voilà, il y a des choses à faire. Donc moi je crois que les Européens s'inscrivent plutôt dans le bon réflexe, c'est-à-dire qu'ils disent c'est la stratégie et le moyen terme, le monde change, je m'adapte, les Américains sont en mode panique. Bon, mais tout ça ne durera pas. Je pense que si Trump réussit la tactique court terme, et je ne suis pas sûr qu'il réussisse, mais s'il la réussit, il va se détendre après. Ouais. Et donc le monde va pas. Le monde diplomatique, les grands équilibres internationaux vont pas être complètement transformés, et donc on aura un Trump qui sera sans doute avec une tonalité plus faible que celle qu'on a aujourd'hui. Mais les États-Unis, à mon avis, se trompent. L'Europe a raison plutôt. Alors après, mettre en place tout ce qu'on essaie de faire, c'est très compliqué. Il faudra faire bien. Faudra faire ensemble. Ça va demander des financements. Alors, on a les yeux focalisés sur l'Allemagne parce qu'eux, ils peuvent payer. Donc, c'est formidable.
Bah, c'est déjà
les
bien.
Les autres, ils auront beaucoup plus de mal à payer.
Oui. Mais les autres avant payaient et l'Allemagne ne payait pas. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quand même aussi un effort qui va être fait par une économie qui a les moyens de le faire.
Ouais, mais il faudra que, en fait, aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'on va jouer groupé parce qu'on est à un moment de tension.
Ouais.
Si j'ai raison et que la voix de Trump va baisser un peu en tonalité une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut, est-ce qu'on va continuer à jouer groupé en Europe, ou est-ce que on va se perdre dans des...
La fragmentation est un risque toujours possible pour l'Europe.
En Europe, ça reste toujours un risque. Il ne faut pas oublier que économiquement, hélas, les concurrents principaux d'un pays européen, c'est l'autre pays européen, c'est moins le reste du monde. Et donc, il y a une discipline qu'il faudra garder, mais faire mieux et faire ensemble, c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas acquis. Donc, voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on a les bons réflexes, les bonnes attitudes, et je pense qu'on a raison d'être content de cela, mais ça demande confirmation.
Je reviens quand même à Trump. Enfin, c'est quoi le... Parce que j'entends la vision stratégique long terme, mais est-ce que ces objectifs-là, est-ce qu'ils peuvent quand même supporter, je sais pas, un risque économique important à court terme? Alors, peut-être d'abord un risque de marché, mais derrière le risque de marché, c'est aussi peut-être un risque économique. On faisait le point avec des économistes hier. Aucun d'eux ne note des déséquilibres fondamentaux dans l'économie américaine qui pourraient appeler une récession rapide. Il y a quand même l'aspect marché. Et derrière ça, on sait que les effets psychologiques, les effets de richesse peuvent aussi entraîner une économie comme l'économie américaine assez vite dans quelque chose d'un peu moins exceptionnel ou spectaculaire, David.
Alors, donc c'est vrai qu'il y a l'effet marché, donc où les conditions financières qui se détériorent à vue d'œil, donc pas tant par la hausse du taux 10 ans, hein, qui est plutôt considéré comme un actif refuge pour l'instant, mais une baisse des marchés actions.
Ouais. Les spreads de crédit remontent un peu.
Je pense qu'il y a encore de la place, malheureusement, pour une hausse des spreads de crédit, en tout cas sur le compartiment high yield américain, qui n'a pas intégré forcément toutes ces mauvaises nouvelles. Mais il y a aussi, surtout, et moi c'est ça qui m'inquiète un peu plus, mais heureusement je pense que la Fed pour le coup veille, c'est le marché de l'emploi, qui est extrêmement solide, et le marché de l'emploi c'est une consommation résiliente, c'est des revenus réels disponibles finalement en hausse, puisque le mouvement d'inflation, enfin on était en désinflation, même si on était sur un plateau, on avait encore un gain marginal pour les consommateurs. Et ce marché de l'emploi, il peut effectivement, s'il se détériore malheureusement, se détériorer de manière non linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à avoir des destructions d'emplois, ouais. il y aura moins de consommation, donc des plans de licenciement dans les entreprises, et finalement, ça peut aller très vite.
Sous les 100 000 créations d'emplois mensuelles, là on était encore à 150 000,
150.
En moyenne 3 mois, on doit être autour de 200 000. C'est Harker, un des présidents de la Réserve fédérale américaine, qui disait à 80 100 000 créations d'emploi, là, la donne commence à changer. On est dans des niveaux qui commencent à déjà réveiller un certain nombre d'alertes, quoi.
Voilà. Donc, je pense effectivement que la Fed a un double mandat. Elle va surveiller de très près ce marché de l'emploi. Et pour le coup, elle serait plutôt proactive si effectivement ce marché de l'emploi venait à vraiment se dégrader.
Et l'inflation permettrait à la Fed d'avoir des marges de manœuvre pour piloter ce double mandat, David ?
Bah alors, c'est toute la difficulté de la Fed, et c'est aussi lié au discours de Powell ce week-end, qui est à l'aise avec le pricing de marché, à savoir 3 cuts cette année, mais il n'est pas allé plus loin non plus. Il n'a pas dit on sera prêt à venir à la rescousse si nécessaire. C'est qu'on a quand même malgré tout ces tarifs douaniers qui, on entend des arguments comme quoi c'est un one-shot, c'est-à-dire une hausse du prix d'inflation, mais avec pas de diffusion.
Ouais.
Sauf que si on prend l'exemple de l'acier, par exemple, une hausse des prix de l'acier, 50% là, décidée par Trump vieille du Canada, c'est-à-dire des voitures neuves plus chères, ça veut dire demain des pièces de rechange plus chères, donc
tout.
Des services de réparation plus chers,
et ça veut dire après-demain, de coca, tout.
Une hausse des tarifs d'assurance pour le secteur auto avec 6 ou 12 mois de retard. Donc c'est très difficile pour la Fed de dissocier, comme en 2018, l'effet tarif one shot, des effets diffusion, voire opportunités pour certains acteurs du privé. Et donc là, c'est un manque profond de visibilité pour la Fed.
Point important, cette politique de tarifs, ça peut être une incitation pour des entreprises locales américaines à repartir dans l'inflation va générer mes profits.
En face, il faut qu'il y ait de la demande. Donc si, au vu des indices de confiance et potentiellement de renseignement de marché de l'emploi, on a moins de demandes, il y aura peut-être moins de pricing power aussi. Mais, et puis ensuite, et c'est ça toute la difficulté avec Trump, et donc où est le Fed put, quoi.
Oui, hein, bah, enfin, le Fed put,
on ne l'a pas pour l'instant. Non. On l'aura peut-être 10% plus bas, mais on ne l'a clairement pas. Et donc, où est le Trump? C'est le fait que Trump peut changer du tout au tout sa politique. C'est-à-dire que si demain, il décide de retirer ses tarifs douaniers, qui met l'accent sur les baisses d'impôts d'ici la fin de l'année, et qui demande à Musk
d'aller voir ailleurs,
c'est un game changer évident au niveau de l'économie et des marchés. Donc, c'est toute la difficulté.
C'est ce que vous disiez, Hervé. À un moment, il va se détendre.
Oui, un moment, il va se détendre. Mais il faut bien voir aussi où sont les attentes des Américains. Il faut se rappeler qu'on a élu Trump aux États-Unis parce que les Américains ont pensé que c'était l'homme qui était capable de faire que ça change, alors qu'on reprochait à Biden une situation économique qui n'était pas bonne parce que l'inflation était forte. Ce que nous disent les Américains en termes économiques, ils disent l'inflation, elle est toujours trop forte, et ils nous disent que l'activisme du pouvoir américain est trop fort. Donc il faut que la politique budgétaire très expansionniste qu'on a connue jusqu'à maintenant, ça se calme. Bon, pour le moment, on ne suit pas trop ni l'une ni l'autre de ces voies. Alors la première, on ne la suit pas du tout avec les droits de douane. La seconde, peut-être qu'on la suit, mais avec Elon Musk d'une façon un petit peu bizarre. Donc je ne suis pas sûr que l'on arrive à suivre. Et la cote de popularité du président Trump baisse. Elle n'a jamais été très haute, hein, mais aujourd'hui, je crois qu'au bout d'un mois, elle est plus basse qu'elle ne l'était au bout... Alors, de 50 jours, pardon. De 50 jours, il y a 8 ans. Donc, en fait, il y a un moment, il faudra bien qu'ils prennent cela en compte aussi. L'inflation, moi, je crois que les tarifs, ce n'est pas bon. David a raison. On ne sait pas bien ce que tout cela donne. Et donc, on gèle la capacité d'action de la Fed. Et il ne faut pas oublier, quoi, le message des années 30, qui a été un très mauvais message, c'est que lorsqu'on entre dans la guerre commerciale, si on n'accompagne pas cela, malgré tout ce qui peut se passer sur les prix, par une détente monétaire, par une baisse de la devise, ça se passe mal. Donc en fait, se lancer dans la guerre commerciale en gelant un peu la capacité d'action de la Banque centrale, c'est vraiment pas une bonne
idée. C'est la pire des situations.
Donc, en fait, il y a là une confusion, je trouve, dans la politique économique des États-Unis, et il faudra bien qu'on la lève. Donc, à mon avis, les droits de douane, ça n'ira pas aussi loin que ce que l'on imagine maintenant, et ça permettra, si besoin...
De libérer de la place pour la Fed ?
Voilà. Si besoin, d'accord. On ne sait pas aujourd'hui s'il y en a vraiment besoin, mais si on reste avec l'incertitude, la confiance qui baisse, les chiffres de croissance ne seront pas bons, et les chiffres de marché action non plus.
On a une enquête aujourd'hui, alors qui est regardée par les économistes, l'enquête NFIB, le moral des patrons de PME aux États-Unis. C'est quand même alors c'est une enquête très républicaine. Il y a un gros biais républicain dans cette enquête. C'est quand même la base électorale de Trump en grande partie. Il y a plein de questions effectivement sur l'idée est-ce que c'est le bon moment d'étendre, d'augmenter votre business dans les 6 prochains mois. Bon, la proportion baisse de, je crois, 5 points de mémoire, ce qui est la plus violente baisse sur un mois depuis avril 2020, qui nous ramène à la période Covid, quoi.
Il y a trois messages dans cette enquête. L'activité, c'est pas bon. Les prix, on les fait monter.
Oui,
patrons de PME,
ça reste une préoccupation.
Et trouver le personnel avec la qualité de du labor, c'est compliqué. C'est pas un très bon message.
Non. Nouran, comment est-ce qu'en tant qu'investisseur, gestionnaire d'actifs, comment on garde un cap, une boussole ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est quand même toujours la question à la fin de la journée, qui est Trump ou qui n'est pas Trump.
Alors, comment on garde le cap ? Déjà, il y a différentes analyses. Il y a les impacts court terme et les impacts à plus long terme. Les impacts court terme, on en a un peu parlé, sur les politiques douanières et impact sur l'inflation et la croissance. Ça semble, j'allais dire, presque évident sur la croissance, parce qu'il y a deux facteurs. On a parlé du manque de confiance des ménages et des entreprises. De toute façon, ces incertitudes vont amener, en fait, à des attitudes, à des comportements attentistes qui devront effectivement se faire ressentir dans la croissance bénéficiaire des entreprises, globalement, qui est estimée avec une baisse de 4 à 5%, et donc dans la croissance économique. L'autre élément sur la croissance qui milite quand même pour un affaiblissement de la croissance à court terme, c'est le déficit commercial. Le déficit commercial qui s'est creusé de manière très forte en raison des achats d'anticipation liés en fait à cette politique protectionniste. Donc en fait, on a effectivement ces éléments-là qui sont des éléments importants pour la croissance économique qui vont être pénalisés. Donc ça, c'est la première chose et c'est les impacts à court terme. Sur l'inflation, il y a d'autres éléments qui effectivement peuvent jouer. Je pense que l'impact des politiques protectionnistes sur l'inflation dépend fortement de l'évolution du dollar. Pourquoi ? Parce que on voit bien qu'en 2018, la montée des tarifs douaniers envers la Chine de 10 à 20%, alors que la Chine était le premier partenaire commercial des États-Unis, n'a pas du tout engendré de choc inflationniste. Donc ça, c'est la première chose.
Mais protégé par le dollar. Donc, il y avait la protection de la hausse du dollar. Protection qui est en train de s'affaiblir.
Parce qu'effectivement, la hausse du dollar vient effectivement baisser le prix des produits importés et donc limiter l'impact inflationniste des tarifs douaniers. Donc aujourd'hui, effectivement, la problématique, c'est qu'on n'a pas cet élément-là. On a plutôt un affaiblissement du dollar. Alors pourquoi on a un affaiblissement du dollar ? Quand on regarde l'évolution euro-dollar, il est très clairement corrélé aux écarts de taux entre le taux de 2 ans aux États-Unis et le taux de 2 ans allemand. On a eu un écart qui s'est creusé de manière très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un flight to quality sur l'ensemble de la courbe aux États-Unis, alors qu'en Europe, ce qu'on price, c'est plutôt effectivement une amélioration de la croissance, des plans de relance, etc. Et donc, on a eu des taux qui
ont... Alors, l'écart s'est réduit entre le 2 ans allemand et le 2 ans américain ?
Non, il s'est creusé.
Ah, il s'est creusé.
Non, récemment, il s'est clairement réduit.
Oui, depuis novembre, en fait, on a eu les taux 2 ans américains qui ont fortement baissé et on a les taux 2 ans européens qui ont fortement baissé.
Oui, c'est ça. Donc l'écart s'est réduit.
Donc l'écart s'est réduit.
Oui, c'est ça. OK, on y est. C'est bon. Oui. Non, mais donc, tout dépend dans quel ordre on prend les choses. Mais c'est bien, c'est l'idée.
Et donc
cette réduction de l'écart, c'est positif euro, ça.
Tout à fait. C'est ce qui a engendré, effectivement. On voit la corrélation, en fait, historique quasiment parfaite avec l'évolution de l'euro-dollar. Donc, effectivement, la problématique, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer en fait au niveau de l'incertitude politique économique, est-ce que ça va continuer à engendrer un flight to quality comme on a vu aux États-Unis, et quid en fait des mouvements de hausse des taux en Europe. Donc ça c'est un élément qui est central et à mon avis qu'il va falloir suivre de manière attentive pour effectivement peut-être commencer à évaluer vraiment l'impact inflationniste. Donc ça c'est des impacts court terme qu'on peut avoir sur les politiques, sur l'inflation et sur la croissance. Les impacts à plus long terme sur la croissance globalement, on considère que vont être atténués, en tout cas les impacts initiaux vont être en général atténué parce qu'on va avoir un ajustement du comportement des agents économiques. Donc, comment on fait quand
sur le plan de l'investissement.
Sur le plan de l'investissement, quand on fait globalement ce constat. Ben, en fait, ce constat, j'allais dire même peu importe ce qu'on vient de vivre sur les marchés financiers, il faut l'acter. Il faut prendre effectivement les éléments factuels et structurants d'un côté et les éléments d'incertitude de l'autre. Donc en fait, on réduit bien évidemment l'exposition
au risque général
sur les actions américaines. D'accord. Le risque général, globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement économique où on est quand même toujours dans des politiques monétaires accommodantes. Les hard data restent globalement plutôt bien orientés, en tout cas solides aujourd'hui. Donc on est dans un environnement qui n'est pas forcément très négatif pour les actifs risqués. Une position neutre est plutôt une position aujourd'hui.
Mais il est encore temps de réduire le risque sur les actions américaines aujourd'hui.
Par contre, effectivement, je pense que tout le travail qui est en train d'être fait en Europe, il ne faut pas complètement l'acheter aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a quand même encore, en fait, des points d'interrogation sur la manière dont ça va être mis en place et sur les impacts réels à court et moyen terme. Mais globalement, il faut effectivement acheter ces nouvelles positives, structurantes pour l'Europe et plutôt prendre des bénéfices. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est toujours prendre des bénéfices sur vraiment le rallye des actions américaines qu'on a connu depuis plusieurs années.
Je comprends. Stratégie d'investissement, enfin stratégie et tactique, je ne sais pas d'ailleurs, parce que les marchés vont tellement vite aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, pas depuis Trump, mais ces dernières années. David, est-ce qu'il est encore temps de se protéger contre la baisse des marchés américains, ou est-ce qu'on est déjà dans l'idée des opportunités qui arriveront à un moment sur ce marché d'actions aux États-Unis? Et question inverse sur l'Europe, est-ce qu'il est encore temps de se laisser porter au moins ou d'acheter la hausse des actions européennes, ou est-ce que ce mouvement-là est déjà en train de basculer dans autre chose?
Alors, donc nous, on avait réduit clairement l'exposition actions américaines, du fait justement de cet indice Citigroup qui est passé négatif, donc l'indice de surprise économique. Et tout au long de l'année. Donc en fait, notre expo action depuis le début de l'année, on allait chercher avec des actions européennes.
D'accord.
Et clairement, ce qui a été annoncé par l'Allemagne, c'est un vrai changement de paradigme. C'est quand même 900 milliards de relance sur 10 ans. Il y a un vrai rehaussement de potentiel de croissance pour l'Allemagne et pour l'Europe. Il y a potentiellement une réindustrialisation des secteurs qui profiteront de ces dépenses d'infrastructures. Et je pense que Trump nous fasse telle ou telle déclaration, il y a un point de non-retour là, par rapport à ce qui a été annoncé.
Ouais.
Alors comme toujours en Europe, on verra s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, on ne va peut-être pas tout dépenser et puis certaines dépenses d'armement se feront plutôt peut-être via des drones, étant donné que la guerre est en train de changer de nature et pas des lignes de réindustrialisation comme on peut attendre. Mais plan d'infrastructure 500 milliards, c'est énorme déjà, ne serait-ce que ça.
Et ça crée de la croissance.
Et ça crée de la croissance.
D'accord.
Ça crée de la croissance.
D'accord.
Donc pour un marché européen, mais ça on l'avait dit et redit, qui était complètement sous-détenu, qui était attractif d'un point de vue valorisation, avec une BCE qui est quand même malgré tout à la manette et toutes sortes de catalyseurs qui jouent favorablement. La surperformance en euros est très violente par rapport à l'action américaine. On pense qu'il y a encore un peu de place. Alors là, tactiquement, il y a peut-être effectivement un mouvement risk-off action qui peut engendrer des prises de profit, notamment avec les annonces de tarifs douaniers de Trump. Mais globalement, on reste clairement long action européenne. Pour ce qui est des actions, et y compris cycliques.
J'entends.
Voilà. Ouais. Après, et y compris bancaires.
Et y compris de taille un peu moins large.
Gentiment.
Ok. gentiment sur les mid-cap et les small. Voilà. D'accord.
Sur le MDAX, il y a encore de la place.
Hein, d'accord. Mais, bon, après, ouais, c'est des indices qui rebondissent quand même, effectivement.
Clairement. Après, sur les actions américaines, oui, il y a un moment, il y aura une capitulation. Le problème, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est que où sont les puts, que ce soit les puts de Trump, les puts de la Fed. Et on voit que c'est alimenté par des flux mécaniques et le retail américain n'a pas encore complètement vendu.
Là, il n'y a pas de capitulation. Une baisse de 14% du Nasdaq hier, ce n'est pas un phénomène de capitulation.
On a encore un peu de place par rapport à une capitulation. Si vous êtes vraiment très technique, très court terme, on a encore un peu de place.
D'accord.
Voilà. Et globalement, pour ce qui est des taux, dernier mot, je pense quand même, là, après la hausse très très forte des taux allemands, là encore, c'est un vrai game changer. Et il y a peut-être, nous, typiquement, sur ce mouvement de pontification de 10 sur l'Allemagne, on l'a joué, on l'amplifie même et on pense potentiellement qu'à terme, on peut aller toucher les 3%, c'est pas impossible sur ce taux 10 ans allemand.
Et là, ça se paye, ça s'achète, le Bund à 3% de rendement quand même.
Là, oui, pour le coup.
Là, il fallait pas trop l'acheter ces derniers temps, effectivement.
Là, oui, a priori, oui.
Ouais.
A priori.
Ouais. Bon, sur l'Europe, il nous reste quelques minutes, Hervé. Vous avez dit, l'enjeu, c'est d'être resté groupé. La gouvernance aussi de ces plans de relance, c'est toujours un point important. Est-ce que le fait que ce soit porté par une Allemagne qui a sous-investi chroniquement pendant peut-être plusieurs décennies maintenant, quand on connaît la tension de l'Allemagne portée à 1 euro de dépenses publiques, est-ce qu'on peut imaginer que la gouvernance de ces plans d'infrastructure sera quand même pertinente et permettra des résultats en termes de croissance et pourquoi pas d'élévation de la croissance potentielle de l'Allemagne et pourquoi pas de l'Europe demain.
La question de l'Allemagne, il faut se souvenir d'il y a 20 ans ou 25 ans, au moment de la mondialisation heureuse, l'Allemagne s'était posé la question, est-ce que je dois être la plus petite des grandes puissances économiques ou est-ce que je dois me contenter d'être le leader de l'Europe ? Finalement, une Allemagne pas très à l'aise dans la politique, elle était sortie de l'histoire en 1945, on le sait tous, finalement elle avait dit « allons-y pour être un leader en Europe » et on voit bien que elle a été tout au long des décennies passées, un leader qui a traîné des pieds, qui a toujours agi avec retard. Donc, en fait, aujourd'hui, on est en train de dire, financièrement, l'Allemagne a les moyens. Enfin, elle accepte de dépenser et elle va le faire bien et au profit de tous. En fait, on voit bien que le passé ne plaide pas pour cela. Donc, aujourd'hui, on a des mots très forts de Friedrich Merz, le futur Premier ministre, et on se félicite de cela. Mais en fait, faisons attention. Je pense que si on a un environnement géopolitique qui reste assez stressé, qui reste inquiétant, dans ce cas-là, l'Allemagne jouera groupée.
D'accord.
Donc l'Allemagne
D'accord.
jouera un rôle D'accord. de leader européen. Si jamais on se retrouvait avec un environnement géopolitique plus calme, les tentations allemandes de jouer plus solo, elles seraient présentes.
À ce point-là, après l'Ukraine, après les déconvenues avec la Chine, c'est tout le modèle économique allemand qui s'est effondré en quelques années, Hervé. Dans 6 mois, il y a un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, les esprits retombent, et vous dites chacun va retourner vaquer à ses occupations. Écoutez, comme ça.
Si on croit le jeu qu'essaie de faire Trump, on faisait référence à Nixon et Kissinger, mais en fait il y a une autre référence, c'est la triangulation, donc là c'est la diplomatie chinoise de ce couple, en fait c'était comment on arrive à désencapsuler la Chine de l'URSS pour affaiblir l'URSS, et le néolibéralisme est quand même né de cela. Donc ça a été un élément très structurant. Aujourd'hui, on peut avoir une lecture, moi c'est celle que j'ai, de la désencapsulation de la Russie, de la Chine. Imaginons qu'on y arrive, que la Russie, brusquement, soit plus aimable avec l'Occident. La Russie, avec l'Europe, ça a toujours été « je t'aime, je te hais ». Et donc là, on est dans une phase « je te hais ». L'histoire nous apprend que la phase suivante, c'est « je t'aime ». Et donc, la réaction de nous autres puissances européennes, le jeu européen, ça a été toujours une incapacité à être uni parce qu'un jouait l'un contre les autres. Est-ce qu'on est capable de remettre cela en cause ? C'est tout le pari, l'espoir de l'Union européenne. Mais en fait, le poids des réflexes historiques est quand même important. Donc sur l'Allemagne, très très bien. Il faut applaudir, mais il faut le faire quand même avec un peu de prudence parce sûr, que on a parfois été déçus et on a été déçus récemment. L'expérience Merkel, ça a quand même oui, plutôt été moyen quoi.
En 15 ans, effectivement, le poids économique de l'Union européenne, qui était équivalent à celui des États-Unis en dollars en 2009, a été coupé en deux. Quoi.
Ouais, voilà.
Ça a été une partie du bilan, effectivement, de ces 15 dernières années. Bon, merci en tout cas à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Acurassi était à nos côtés, David Belloc, Mirova et Nouran Charer, Mansartis.